Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
J'aimerais nous inviter à nous lever tous. Lève-nous tous un moment. Totelemi banso. Levons simplement nos mains. Totomoli maboko na biso. Chondorobos, chondorobos. Rotorobos. Garde nos mains levées un moment. Maboko totomoli. Et autant que c'est possible, faisons totalement silence. Et que le seul le Saint-Esprit joue. Il m'a dit, Roland, donnez-moi 3 minutes de silence. Et il m'a dit, durant ces 3 minutes de silence, 2 choses vont se passer. Il m'a dit, ça sera le silence de la création et de la récréation. Durant ces 3 minutes de silence, il va créer dans nos corps, dans notre esprit, dans notre âme, des choses qui ne sont pas. Mais il m'a dit, durant ces 3 minutes aussi, il va recréer. Durant ces 3 minutes, les cancers disparaissent. Les infirmités disparaissent. Durant ces 3 minutes, les maladies quittent. Durant ces 3 minutes, la stérile devient féconde. Levons simplement nos mains. Les chaînes de la malédiction tombent.
Mignololo ya botutu ezali kokweya.
Les esprits méchants ne peuvent résister durant ces quelques secondes de silence. Et spécialement les esprits des morts plient bagage. Les esprits des morts plient bagage. Il y a quelqu'un qui subitement baille très fort. C'est ce souffle qui était en toi qui part maintenant. Car l'esprit qui était en toi était sous forme d'un souffle, d'un
roua.
Malédiction, va-t'en. Malédiction,
va-t'en.
Esprit de mort
sort.
Esprit de mort
sort.
Seigneur, merci parce que ce que tu viens de faire durant ces 3 minutes est un avant-goût. Des choses plus glorieuses nous attendent jour après jour. Et tu m'as promis même dans le bus, quand les gens seront en train de rentrer, des choses se passeront. Les gens seront surpris de voir quelqu'un qui n'a jamais marché sauter et marcher. Ceux qui sont venus avec des goîtres n'arriveront pas à destination. Ils verront ces goîtres partir. Et quand tu feras toutes ces choses, aide-moi à aider ton peuple à ne pas élever un homme, à ne pas élever une église, à tourner les regards vers toi et toi seul, toi et toi seul, vers l'agneau Père l'agneau. À cet agneau de Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi amen. Nous reprenons nos places en acclamant encore une fois le Seigneur. L'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Libula na basali na nzambe.
Tel est le grand thème sur lequel nous allons parler, partager, réfléchir ensemble durant ces quatre jours.
Mama na likambo to kolobe mikolo mine yoyo.
Et j'aimerais lire avec vous nos deux passages principaux.
Na lingito tanga matangi ya minene ya mibale.
Ésaïe chapitre 54, versets 13 à 15 et puis verset 17. Ésaïe 54, 13 à 15 et puis 17. À ce premier passage, nous ajoutons Exode 23. Le verset 25e. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'aime pas quelques, pas le plus grand nombre. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Pas certain. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Lisons aussi Exode chapitre 23. Vas-y, acclamons, pourquoi pas. Exode 23, verset 25e. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit pas que la maladie va s'éloigner. Il dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La condition de le départ, servir l'Éternel. Nous allons aborder cet enseignement en deux grands points. Le premier grand point, être serviteur de l'Éternel. Nous verrons la signification, les conditions et les manières.
Dans
notre canevas, nous avons écrit être serviteur de l'Éternel. Deux points, signification, conditions et manières. Et là, nous avons quatre sous-points. Le point premier ou le point A, la place de la nouvelle naissance. Deuxième point, sorte des services. Troisième point, équipement pour les services. Quatrième point, la place du temps dans les services. Et le deuxième grand point dans notre canevas, c'est le nœud, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et là, nous l'avons subdivisé en trois sous-points. Le premier point, sorte d'héritage et récompense. Deuxième point, c'est que Dieu a mis à part pour ceux qui le servent, car il y a quelque chose de mis à part pour
eux.
Et puis enfin, troisième point, comment avoir et comment conserver l'héritage de l'Éternel. Nous abordons ce soir avec le premier point, être serviteur de l'Éternel, signification, condition et manière. Les deux textes que nous avons lus énoncent et mettent en exergue l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et le terme clé, c'est l'héritage. Si sur le plan classique, un héritage est un ensemble de biens que l'on obtient par voie successorale, cela signifie le plus souvent que des biens sont laissés mais par une personne morte. Dans notre contexte, le mot héritage a trois significations importantes. La première signification du mot héritage dans notre contexte, héritage veut dire rémunération ou salaire. C'est-à-dire une rétribution
liée à un travail. C'est-à-dire une contrepartie due à un service rendu. Et l'idée qui est cachée derrière, il y a un contrat. Héritage veut dire rémunération, salaire. Servir Dieu s'accompagne d'un salaire, s'accompagne d'une rémunération. Deuxième signification du terme héritage, c'est récompense. Quelque chose que l'on reçoit pour une bonne action. L'idée ici est que cet acte est dû à la volonté propre de celui qui donne. Moi je fais mon travail, mais lui il a apprécié, il dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Je lui donne sa récompense. C'était pas un contrat tacite. Je me suis embourbé avec mon véhicule. Les jeunes gens viennent m'aider, nous ne sommes pas entendus avant. Mais avant de partir, j'ai dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Je fais rentrer mes mains dans mes poches, je dis prenez. Cette récompense peut être matérielle ou morale.
Et
celui qui donne cette récompense le donne dans un but précis. Trois buts nous sont montrés dans l'étude de ces mots. Le premier, c'est démontrer son appréciation. La satisfaction liée à la chose qui a été faite. Le deuxième but, c'est d'encourager celui qui a posé cet acte louable.
Et
le troisième but, c'est d'encourager et même d'inviter les autres à faire autant. Comme pour dire, voilà ce que je fais avec ceux qui font, et si vous voulez avoir aussi ces choses, faites aussi. La troisième signification du mot héritage dans ce contexte veut dire gratification, avantage supplémentaire, avantage qu'il donne à quelqu'un pour le valoriser. Notre Dieu, c'est un Dieu qui paye la gratification. Si les hommes du monde sont capables de donner un 13e mois, combien plus forte raison Jéhovah. La gratification cache l'idée d'un supplément. L'idée d'un supplément. Quelque chose de principal et de normal a été donné.
Mais
on y ajoute encore quelque chose pour valoriser les actes que quelqu'un a posés. J'aimerais dès le départ dire, il y a un héritage attaché au fait de servir Dieu. Il
n'y
a pas meilleur payeur que notre Dieu. Si vous ne voyez pas les salaires aujourd'hui, vous les verrez plus tard. Et le problème avec notre Dieu, c'est que cet héritage n'est pas seulement attaché à nous. Permettez-moi de dire, il poursuit même nos enfants. Il les pourchasse. Ils vont subir cela. En bon français, bon gré, mal gré, ils seront l'objet d'un attouchement divin.
Si
quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise amen. Pourquoi un tel enseignement? Quatre raisons. Quatre raisons. La première raison qui fait que nous puissions apporter un tel enseignement, c'est de chasser l'ignorance et la méconnaissance dans les chefs des serviteurs de Dieu. Ce que Dieu a mis à part pour qu'ils sachent que ce qu'ils font, il y a un héritage attaché à cela. J'aime la prise de conscience de l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 4, 8, au soir de sa vie, il a servi Dieu. Il écrit à son fils dans la foi, il dit, une récompense m'est réservée. Conscient, vu ce que je fais, il y a quelque chose. L'ignorance et la méconnaissance peut faire que nous ne puissions pas jouir de ce qui nous revient de droit. Dans Josué chapitre 14, versets 6 à 14, nous voyons un homme réclamer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il savait que cela lui revenait. C'était depuis 45 ans qu'on lui avait fait la promesse. Josué est en train de distribuer l'héritage. Et Caleb se lève, il dit, j'ai une part. C'est à moi. Je ne peux pas rester bouche fermée. Ça m'appartient. Ah, si vous servez Dieu, il est bon que vous puissiez connaître votre héritage. Vous les réclamerez dans la prière. Quand vous verrez certaines choses arriver chez vos enfants, vous direz non, 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 non. Ça, c'est pas prévu dans les contrats. Ça, c'est pas la part de ceux qui me servent. Ceux qui me servent, voilà ce qu'ils auront. Le pasteur Yongi Cho l'a dit. Quand son fils est né à 18 ans, il a perdu la tête. Quelque chose s'est passé. Le diable voulait comme détruire sa réputation. Quand il avait campagne d'évangélisation sur l'avenue X, son fils mettait ses banderoles sur l'avenue Y pour avoir un concert de rock. De telle sorte que les gens lui disaient, avant de venir nous évangéliser, évangélise d'abord ton fils. Il a dit, je me suis retiré, j'ai commencé à dire, Seigneur, dans les contrats, ça, ce n'est pas prévu. Ah, j'aime pourquoi la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Tu diras, ça, ce n'est pas prévu. Et tu réclameras ce qui de droit te revient. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise Amen. Caleb a dit, ça c'est à moi. Quelqu'un s'est engagé. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 9, Josaphat fait une prière où il réclame l'intervention de Dieu. Mais cette intervention qu'il réclame est liée à la connaissance. Dieu s'était engagé avec Salomon en disant, quand vous aurez des problèmes, venez en cet endroit, faites des prières.
Et
écoutez comment il parle à son Dieu. N'est-ce pas toi qui avais dit que s'il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement ou la peste et même la famine, nous nous présenterons devant toi dans cette maison où ton nom est invoqué et tu nous sauveras et tu nous exauceras. La connaissance, serviteur de Dieu, connaissez en quoi vous êtes engagé avec Dieu. Il arrive en tant que serviteur de Dieu, nous connaissons beaucoup plus nos devoirs que nos droits. Et des fois, dans un enseignement déséquilibré, on nous enseigne plus nos devoirs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais à part les devoirs, nous avons aussi des droits. Des choses que nous pouvons réclamer. Deuxième raison pour laquelle nous faisons cet enseignement, c'est pour encourager les serviteurs de Dieu à s'attacher à l'œuvre de Dieu. Car il y a des choses attachées à la labeur dans laquelle vous êtes impliqué. Il est bon que vous puissiez les savoir. Nous ne sommes pas des mercenaires travaillant pour un salaire. Mais celui qui nous a appelés a prévu un salaire que nous ne voulons pas ignorer. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, l'apôtre dit ces paroles pleines d'encouragement. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services
au sein,
des heures de répétition pour notre maman, des choses qu'elle aime manger, elle dit, je ne mangerai pas pour avoir une belle voix. des heures et des heures de répétition, des heures et des heures de prière, obligé parfois de laisser les enfants avec quelques personnes pour aller bénir d'autres personnes ailleurs. Non, Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas cet intercesseur. Quand tout le monde dort à 2 heures du matin, il s'élève, Seigneur, ton église, Seigneur, ton peuple, Seigneur, nos frères qui travaillent, Seigneur, nos femmes stériles. Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas cette étudiante qui vient de l'UPC samedi à midi affamée, mais qui doit venir à 13h ici répéter pour les cultes du lendemain, n'ayant rien à manger. Les intestins commencent à se bousculer. Les colons demandent aux intestins grêles, est-ce que vous avez vu quelque chose descendre? Les intestins grêles disent rien du tout. Dieu n'oublie pas cela. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie pas cela. Travaillons pour Dieu. Et écoutez ce que 1 Corinthiens 15, verset 58 dit. Ça, j'aimerais que chacun de nous puisse lire à haute voix dans sa version. Je ne sais quelle version que tu as. Français, anglais, chinois, qui t'étais là, qui sakata, qui ngwaka. J'aimerais un peu comme à l'école poser la question. Est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens 15, 58. À 3, nous y allons, n'est-ce pas? Allons-y, 1, 2, 3.
Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Sachant que votre travail ne sera pas... Les termes utilisés là, vain, vanus, il n'y aura pas un vide. Il n'y aura pas un creux. Dis à ton voisin, ton travail ne sera pas vain. Parole vivante dit, la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. J'aimerais vous encourager à travailler pour Dieu. Vous qui êtes dans le service de Dieu, restez-y. Donnez-vous encore davantage. Vous qui vous asseyez sur le banc, levez-vous. Prenez la pelle, prenez la bêche, faites quelque chose. Parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas une place pour les passifs. Chacun de nous peut servir. Pose une question à ton voisin, tu sers dans quel département? Dis-lui encore, si tu ne fais rien, tu rates. Dis-lui comme quelqu'un l'a dit, Ndi Melangai. Alléluia.
Amen.
J'aimerais vous encourager à servir Dieu. Cela fait 25 ans qu'il m'a appelé. Oh, pour le servir, j'ai beaucoup abandonné. Cela m'a coûté beaucoup de choses. Mais j'aimerais le dire, cela m'a rapporté aussi plein. Si c'était à refaire, je ferais la même chose. On ne perd jamais en servant ces dieux. On ne perd jamais. J'ai bien dit jamais. Il y a des moments où vous ne voyez pas les salaires. Alors il vous réserve des rappels. Rappel. J'ai vu une fois ma mère, on lui a donné un rappel de 22 mois. C'est une dame de nature timide. Ces jours-là, je l'ai vue danser. Elle ne parle pas bien français, mais elle a prié dans un français impeccable. Seigneur Dieu, merveilleux. J'ai dit, hymne en français. Je le sens dans mon cœur. Dieu va faire des rappels pour certains. Travaillez. Troisième raison. C'est pour éclairer le peuple de Dieu sur la notion du service chrétien. Car certains sont pleinement serviteurs de Dieu mais l'ignorent. Ou soit ne les savent pas. Il est bon que nous puissions savoir c'est quoi servir Dieu. Car on ne peut réclamer un héritage que si l'on est. Et il est bon que nous puissions savoir que nous sommes. Servir Dieu, ce n'est pas forcément être un clergé. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être à temps plein. C'est pour ça que nous voulons durant ces quelques jours éclairés. On peut servir Dieu dans bien de domaines. Je ne suis pas plus serviteur de Dieu parce que je me tiens ici. Il y a certains qui le sont bien plus. Et nous verrons que Dieu ne va pas nous rétribuer par rapport à la popularité, mais par rapport à la fidélité. Fidélité même dans l'ombre. Il y a des gens qui ne se tiennent pas ici, mais qui chaque semaine réfléchissent à l'organisation de l'église. Ils restent dans des réunions du comité de 21h à 3h du matin. Ils rentrent en disant kata kata, lia lia, mais il est fort. Inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Ces chaises, ce ne sont pas les anges qui les ont arrangées. Quelqu'un qui ne prêche pas, il chasse pas les démons. Il dit, moi, c'est ranger les chaises. Quelqu'un d'autre dit, moi, c'est la prière. Ngai chaque samedi. Repas à tongo ya midi à poko na sota kapo culte dimanche
mpevekita.
Donc des fois quand vous voyez le pasteur Roland dans nos prêches, vous dites mais alala ki wapi yete.
Mon azote ozoka moi.
Mamuka batumbi ya sakuna na suka. Aliya ki te samedi sota kan fumu nzambi. Kulumuna tia 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 tapeve. Alors, vous vous élevez, Roland de l'eau. Via sa somo, viété, une maman, que Dieu voit et que Dieu connaît. Et vous serez étonné dans la vie de cette femme. Ses enfants, distinction sur distinction. Demande d'emploi, il y a sans j'ai l'honneur. On trie simplement les fils de maman Kabatumbe. Les fils disent, mais Ngazamutumu Kouabouyote! Mamoundé, dis à ton voisin, salut l'ensemble, papa. J'entends quelqu'un dire, mais ma tia, vous savez qui wapi enfant. Alors ne quitte pas cet endroit. Vois les pasteurs Ken, vois les autres, vois les responsables des mamans, tu dis, Nabaniko yembalelo. Le solfège, ça s'apprend. Nous verrons qu'il y a différentes manières de servir le Seigneur. Nous verrons qu'on peut même servir le Seigneur avec son argent. Quatrième raison. Décourager. Seuls ceux qui croient être serviteurs de Dieu mais qui ne le sont pas. Parce qu'on peut s'attendre à un héritage auquel on n'a pas droit. Il ne suffit pas de porter la tenue militaire, as-tu le numéro matricule au quartier général? Tu vas nous faire trembler à la cité. D'autres seront au garde-vous devant toi. Mais quand tu verras les pèmes, tu vas te cacher. Nous verrons que dans l'œuvre de Dieu, il y a trois sortes d'appelés ou trois sortes de serviteurs. Nous verrons qu'il y a des auto-appelés. Les auto-appelés qui se sont faits eux-mêmes pour multiples raisons. Bang, ministère, ils ont pèsé à niveau, on a qui mes prophètes, hein. Le Yoma prophète, on a secondé, ok. Les auto-appelés. Et deuxièmement, il y a les appelés des hommes. Placés à des postes de responsabilité par les hommes. Communauté X, Y. Les bourses sont venues de l'Allemagne.
Il y a la communauté Songolo.
La théologie, il faut mon encasser dans la guerre. Rigobert, ça la demande, papa. On a repoussé, on a sima. Conversion, zéro. Appel, zéro. À quelle Allemagne? À Zongi, il va payer paroisse. Ceux-là, ils attendront un héritage et ne les recevront jamais. Que des appelés des hommes dans notre pays. Nous verrons la différence qu'il y avait dans l'Ancien Testament entre les prophètes qui étaient appelés de Dieu où la qualité était presque souvent maintenue. Et les sacrificateurs où c'était héréditaire, et souvent la qualité allait en baissant. Je suis étonné quand dans 1 Samuel 1, 12 à 17, la Bible nous parle du fils d'Élie. Au verset 12, on les appelle des sacrificateurs. Au verset 12, on dit ces jeunes gens étaient des hommes pervers. Et puis on y ajoute, ils ne connaissaient point l'Éternel. Comment on peut être à la fois sacrificateur et ne pas être connu de Dieu? En même temps pervers. Quand ils passent en route, on dit révérend. Révérend
finet.
Héritage zéro.
Liboula attend mon côté.
Mais il y a aussi les appelés de Dieu. Ils savent qu'ils sont appelés de Dieu. Les ciels savent qu'ils sont appelés. Même l'enfer sait. J'aime quand l'apôtre Paul dit, Paul, apôtre par la volonté de Dieu. J'aime quand il dit serviteur de Dieu par ordre de Jésus-Christ. Il est étonnant de voir dans Matthieu 7, verset 21 à 23, Christ rejeté des gens qui prétendent être serviteurs de Dieu. Ils lui disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Il dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Mais quand les gens les ont vus faire des choses, ils ont dit, waouh! Inconnu du Créateur. Suis-je connu de lui? Êtes-vous connu de lui? Sommes-nous connus de lui? Nous irons même plus loin pour montrer que les vrais serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui sont connus au ciel. Dans Matthieu 17, verset 5, à la montagne de la transfiguration, un serviteur connu et approuvé, un témoignage vient, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aime ce qui est ajouté à la fin, écoutez-les. Dieu n'ouvrira les oreilles des gens pour vous écouter que si vous avez son accord. Seigneur, aide-moi à voir les témoignages qui viennent de toi. Mais aussi, les vrais serviteurs de Dieu sont connus du monde des ténèbres. Dans Actes 19 au verset 15, des jeunes gens essayaient de jouer aux serviteurs de Dieu. Ils avaient des démons bien informés. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous te commandons de sortir. Les démons sont informés qui sont les vrais et qui sont les faux. Ils lui disent, Jésus-Christ, nous connaissons. Même Paul, hein, nous connaissons. Mais toi, j'aime la suite. Versets 16 et 17. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. Il se rendit maître de deux d'entre eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et la Bible dit, cela fut connu de tous les Juifs. Et la crainte de Dieu s'empara de tous. Et le nom du Seigneur fut glorifié. C'est pourquoi dans notre méthodologie, nous avons préféré commencer par ce que j'appelle les prérequis. Les conditions à remplir pour être ou pour avoir. Nous parlerons longtemps en profondeur de l'héritage des serviteurs de Dieu. Mais pour avoir cet héritage, il faut d'abord être serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord nous mettre d'accord sur les contenus. C'est quoi un serviteur de Dieu? Comme définition simple et simpliste, nous avons pris deux axes. Premièrement, le serviteur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui connaît l'Éternel, c'est-à-dire qui a une réelle relation avec lui. Et de cette relation découle une qualité de vie. Élément essentiel et important, une relation. Et deuxièmement, le serviteur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui met son temps son intelligence et ses aptitudes physiques et intellectuelles au service de l'Éternel. Dans 1 Chronique chapitre 28 au verset 9e, alors que le roi David devait quitter cette terre, il parle à son fils Salomon et lui dit des choses profondes. Il dit: et toi Salomon, mon fils, soulignez bien cela dans vos Bibles, connais le Dieu de ton père et sers-le. D'abord la connaissance et puis les services. Connais. Les mêmes mots utilisés ici à la même racine quand dans Genèse 4 il est dit Adam connut Ève sa femme, une relation profonde, intime. Connais. Et puis sers. Il dit pas sers et puis cherche à connaître. Et même quand il va plus loin, il dit non seulement connais et puis sers, mais il parle même de la manière de servir, d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. C'est pourquoi ce soir, avant de clore, j'aimerais m'arrêter pour dire que les premiers pas et même les pas les plus importants avant tout service, c'est la relation. C'est être enfant de Dieu. Pas de service sans nouvelle naissance. Et à ton voisin, il n'y a pas de service sans nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une nécessité et même une obligation. Dans Jean chapitre 6, versets 28 et verset 29, un groupe de gens qui ont marché avec Christ toute une journée, ils ont vu faire beaucoup de choses, ils ont vu accomplir le surnaturel, et ils sont tellement touchés qu'ils veulent aussi y reproduire les mêmes choses. La Bible dit qu'ils sont venus vers Christ et lui ont posé la question: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? D'autres versions disent: que devons-nous faire pour faire les choses que toi tu as eu à faire? Multiplier les pains, marcher sur l'eau. Nous voudrions faire ça. Que devons-nous faire? Très bonne soif. Très bon désir. Très bonne ambition. Mais quand Christ répond, il dit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a appelé. Il remet la procédure à sa place. Vous voulez produire? Partez d'abord de la relation. Ah, c'est pourquoi ce soir j'aimerais vous poser la question: êtes-vous en relation avec Christ? Les connaissez-vous réellement? Êtes-vous né de nouveau? De la même manière pour l'agriculteur, il n'y a pas de champs et de plates-bandes sans pépinières. Allez à Bandal, ils vont vous montrer cela. De la même manière, la nouvelle naissance est la pépinière où Dieu tire ses serviteurs. Pas de service sans nouvelle naissance. Pas de service efficace et efficient sans nouvelle naissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup sur le champ du service, mais pas né de nouveau. Certains ont été nés, mais avortons. Vous qui depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, une année, quelques mois, servez le Seigneur, êtes-vous né de nouveau? Roland, es-tu né de nouveau? Vous qui connaissez l'histoire de l'église, moi j'étais là, donc nous avec le 24 février, nous avec il y a 20. Donc tu es bien, c'était mon salaga, ton timon là mon papa. Tant que tante salaga, bien au moins bien. Oui, parce que quand on a bien au moins bien. Êtes-vous né de nouveau? Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 10, Christ a rencontré un homme qui se croyait serviteur et a eu avec lui un bon moment d'échange. Nicodème, il s'appelait. Quand cet homme s'approche, il veut le flatter. Tu es un docteur de Dieu, car personne, Christ va à l'essentiel. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Obligation, nécessité. Écoutez la réponse de Nicodème. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, dites avec moi, il faut. Il en fait une obligation. Il faut que vous naissiez de nouveau. La version anglaise dit you must. C'est une obligation. Il faut. Et j'aime le verset 8. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu en entends les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. D'autres versions disent né d'en haut. La nouvelle naissance est un mystère. La même carapace extérieure, mais les intentions intérieures ont changé. Les mêmes visages, mais plein de choses ont changé. Les coureurs de jupons ne l'est plus. Les bagarreurs ne l'est plus. Les menteurs ne l'est plus. Changement radical. Et verset 9 et 10, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? J'aime la réponse de Christ. Il dit, tu es le docteur d'Israël. Donc beaucoup dépendent de toi. Tant que tel maro, il référera à Nicodème. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Seigneur, pardonne-moi d'être un conducteur aveugle. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la véritable nouvelle naissance? Avant de dire que la véritable nouvelle naissance, et j'aimerais d'abord dire ce qu'elle n'est pas.
Et
rapidement, je vais mentionner cette chose. Premièrement, la nouvelle naissance ne s'obtient pas par les sacrements. Tu es né de nouveau depuis quand, mon frère? Depuis que j'ai été baptisé, mon frère. Moi, c'est le révérend Kélani, le père du réveil. Donc, moi, le jour du baptême, ce n'est pas les petits assistants, les Roland Dallo, le Lufika, le Mumboko, c'est Jacques-André vers nos papas. Donc, lui-même, papa, Mouzungu. Est-ce que le sacrement n'a pas son importance? Non. Mais le sacrement ne sauve pas. Baptême, communion, confirmation. J'ai vu les gens les jours de leur baptême, de leur communion, en train de danser la pédicule. Deuxièmement, la nouvelle naissance ne s'obtient pas par hérédité, par contagion. Frère, tu es né de nouveau depuis quand? Non, mon frère, moi je suis né dans une famille chrétienne, papa. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous un enfant de Dieu. J'ai demandé à un homme, est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, Roland, moi je suis né dans la mission à Wembuniam et notre maison était au centre. Tu peux être né dans l'église à Boulungu et passer l'éternité en enfer. Fils et filles des pasteurs et être perdu. Et des fois même, ce sont ces gens qui ont difficile à accéder au salut. Ils croient avoir ce qu'ils n'ont pas. On ne naît pas de nouveau par hérédité. Troisièmement, la nouvelle naissance n'est pas la réforme du vieil homme ou une amélioration dû à des décisions personnelles. Frère, moi je suis né de nouveau depuis le 31 décembre 2009. J'avais décidé d'en cigarette ici. Des résolutions qui ne durent que 3 semaines. Non, c'est pas une amélioration. Quatrièmement, la nouvelle naissance n'a pas comme source origine une dénomination, une église ou un homme aussi spirituel auquel nous sommes attachés. Je prie à tel endroit. Je fais partie de telle communauté. Cinquièmement, La nouvelle naissance n'est pas liée au fait d'assister à un culte quelque part, mais très régulier. Je vais à tel endroit, je vais souvent. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Sixièmement, la nouvelle naissance n'est pas un processus. Quelque chose qui s'étale sur le temps. Septièmement, la nouvelle naissance n'est pas une expérience secrète. Connu de la seule personne qui l'a expérimenté, frère. Là, je suis né de nouveau. Si tu l'es réellement, nous le saurons aussi. Quelqu'un a dit, quand un chat naît de nouveau, il faut demander les témoignages aux souris. Alors rapidement, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Premièrement, la nouvelle naissance est un changement profond et radical dans la vie d'un homme ou d'une femme. Ces changements comme base les contacts avec la parole de Dieu. La prise de conscience de son état de péché. Et la décision personnelle d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est-à-dire désormais c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va diriger. J'abdique, je descends du trône de ma vie, c'est lui qui conduit. Deuxièmement, la nouvelle naissance est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. C'est un événement. C'est quelque chose qui se passe subitement. Et dans le cœur, quelque chose se passe. L'on peut se souvenir du jour, de l'heure et de l'endroit. Moi, je suis né de nouveau le 5 novembre 85 à 9h. Je peux me rappeler comment j'étais habillé. Je peux me rappeler de tous les petits détails. Paul a su quand il était converti. Les jours de la Pentecôte, des hommes ont connu cet événement de changement. Quand Paul est arrivé en Asie, une femme appelée Lydie, vendeuse de pourpre, a connu ces changements. Troisièmement, la nouvelle naissance a deux étapes importantes. Premièrement, la repentance, c'est-à-dire la prise de conscience de son état de péché. Ah, je me souviens ce jour-là combien j'avais pleuré. C'est comme si on me tapait avec une chicotte. Et deuxième étape dans la nouvelle naissance, c'est la conversion. La conversion veut dire tourner totalement. Je marchais comme ça, je fais un tour au complet et je change de direction. On peut venir à l'église et ne jamais être converti. Êtes-vous réellement converti? C'est ça le prérequis, c'est ça les bases qui plus tard feront le succès dans les ministères. Le succès dans les services. Quatrièmement, la vraie nouvelle naissance est certes d'abord une expérience intime, personnelle et secrète, mais les résultats finissent par sortir à l'extérieur. Quand on est né de nouveau, premièrement soi-même on le sait. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous-même, vous le savez, je suis enfant de Dieu. Mais deuxièmement, les autres se rendent compte. Dans Acte 9, au verset 21, parlant de Paul, la Bible dit, tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait? La vraie nouvelle naissance s'accompagne toujours de deux verbes de la conjugaison, passé et présent. J'étais et je suis. Je faisais et je fais. Si le passé est égal au présent, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous risquerez d'être comme un peu ce général belge a dit, avant l'indépendance égale, après l'indépendance. J'étais un impudique, je ne le suis plus. J'étais une voleuse d'hommes d'autrui, je ne le fais plus. Est-ce que dans votre vie, vous pouvez dire j'étais et je ne suis plus? Je faisais et je ne fais plus. Cinquièmement, la vraie nouvelle naissance change nos aspirations. Elle vous détache de certaines choses et vous attache à d'autres. Vous commencez à aimer la prière. Vous commencez à aimer lire la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est votre joie. Venir à la prière, ce n'est pas un devoir, c'est une joie. Ça change les inclinaisons de votre cœur. Chantez pour Dieu, on ne va pas vous pousser. Ça vous change complètement, totalement. Quand on est né de nouveau, je me souviens quand nous on est né de nouveau, on voulait que tout le monde le sache. On prenait les grosses Bibles de Jérusalem. Tout le monde doit savoir que ça a changé. Pas comme toi, tu l'as fait. Pour venir ici, tu as pris le petit Nouveau Testament au cœur. Et même avant d'entrer, tu as regardé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous, on ne les cache pas. Car il est notre joie. Il est notre bonheur. Nos aspirations ont changé. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est difficile pour toi de le comprendre. Quelqu'un a de la nouvelle naissance. C'est comme commenter sur une pomme que tu n'as pas mangée. Est-ce que pomme on a mes akito? Mais quand on a. Il avait dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Paul dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Moi je ne suis pas de la génération des Wenge. Moi je suis de la génération des Zaiko. Nous c'était Maelika. Nous c'était ces endroits. Mais quand le Christ est rentré, changement a radical. Des fois quand je regarde mes vieilles photos dans ces concerts, je dis mais qu'est-ce que j'aimais. Je vais vous relater une petite histoire, ne dites pas ça aux absents. En
81,
il y a eu des émissions à l'époque Kin Show. C'était Papa Wemba qui était passé. Et subitement, il est venu avec une sorte de mode où les pantalons doivent s'arrêter ici. Avec des chaussettes blanches. Et je me souviens la nuit du dimanche à lundi. J'ai raccourci mon pantalon. Pantalon bleu et blanc.
Lui il
connaît. J'atterris à l'entrée de l'Athénée de la Gombe. La marche normale de l'entrée jusqu'à l'autre côté, ça prenait 7 minutes. J'ai dû faire 20. Et tout le monde criait Ekoumani. Et bizarrement dans les péchés ça te fait du bien. Tu augmentes encore.
Malembe.
De telle sorte que je suis allé prêcher à Bruxelles en 2005. J'ai vu quelqu'un qui la dernière fois qu'il m'avait vu c'était à l'époque. Il m'a dit oh Ekoumani. J'ai dit Oh! Ekoumani Abou, oh! Ces choses qui étaient pour moi un gain. Ces choses qui étaient pour moi un gain. Ces choses qui étaient pour moi un gain. Je ne passe plus mon temps à discuter. Non, la veste que Wera a portée. Papa, tricot en un JB, donc J3, papa! Bon, les papas, on a ce qu'on a dit, les papas, et on se bat même. Et c'est là qu'ils plaignent, c'est là qu'ils plaignent, c'est là qu'ils plaignent, c'est là qu'ils plaignent. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ma mère est une pédagogue fantastique. Un jour, elle voulait m'expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Il dit il y avait un cochon quand il voulait passer devant moi à Makelele, j'ai grandi à Bandal. On lui avait fait porter des beaux habits. Mais quand il voyait ses amis s'embourber dans tout ce qu'il y avait comme saleté, il ne pouvait pas s'empêcher d'entrer. Il dit un jour, on l'a amené chez un chirurgien, on a enlevé les cœurs des cochons. On a mis un cœur. Quand il était en train de passer avec son ami, il regardait les autres. Extérieur le même, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Avez-vous changé? Êtes-vous né de nouveau? La nouvelle naissance touche tous les aspects de la vie. Je connais un frère, moi je le connaissais avec un nom normal. Je sais que j'arrive aux États-Unis, on me dit on l'appelait Pécho.
Lui-même, je sais qu'il a rigolé très fort. J'ai dit, ah, est chaud. Une autre a ajouté même Wangongo. J'ai dit, Wangongo. Et cette dame a parlé un peu de son passé. Je dis, tout a changé. Et si tu le vois, il dit, il y a solo. Les aspirations changent. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et je termine ce soir en disant, la nouvelle naissance est un miracle. Inexplicable par la raison. Inexplicable par la logique. Parlant à Nicodème, il lui dit, il parlera de naître de l'esprit. C'est pour cela 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quelqu'un dit, la nouvelle naissance, c'est comme s'il y a un train à marcher sur toi. Les gens verront. Tu ne vas pas venir du train
Niataki.
Les gens verront les conséquences. Il y a un héritage attaché au fait d'être serviteur de Dieu. Mais cela commence par les pas les plus importants. Être né de nouveau. J'ai pris un moment que personne ne bouge. Ni à l'entrée, ni de l'autre côté. J'ai pris un moment que nous tous, nous ayons nos yeux fermés, nos têtes tombées. Je vous supplie par l'autorité que Dieu me donne, que personne ne bouge. Beaucoup de choses seront faites tout au long de ces séminaires, mais la chose la plus importante, c'est les bases que nous sommes en train de jeter aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais lancer un appel et un seul. Êtes-vous né de nouveau? J'ai pas dit, êtes-vous un venant à l'église? Êtes-vous quelqu'un qui soit passé par des sacrements? Êtes-vous quelqu'un qui soit né dans une famille chrétienne? Êtes-vous réellement né de nouveau? Dans votre vie, y a-t-il un avant et un après Christ? Pouvez-vous dire que ma vie a totalement changé? J'étais et je ne suis plus. Ce soir, j'aimerais donner la possibilité à quelqu'un de passer par ces premiers pas importants. Et à cet appel que je lance un autre appel. Il est possible que tu aies un jour accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après, tu t'es relâché. Tu es retourné dans un style de vie autre. Et ce soir, tu veux revenir à Dieu. Ce soir, tu veux revenir à Dieu. Ce soir, il y a plusieurs qui n'ont pas la certitude que s'ils meurent, ils vont au ciel. Ce soir, il y a plusieurs qui n'ont aucune certitude que s'ils meurent, ils passent l'éternité avec Dieu. L'apôtre Paul dira, Christ est ma vie. Mourir est un gain. Christ est ma vie. Mourir est un gain. C'est pourquoi je lance cet appel. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, je veux naître de nouveau. Je veux inviter Christ afin qu'il entre dans mon cœur, dans ma vie, qu'il la dirige. Ce soir, je lui cède le trône de ma vie. Je veux plus être un religieux. Je veux plus être qu'un venant à l'église simplement. Je veux plus seulement faire partie d'une famille chrétienne. Je prends l'engagement moi-même ce soir. Mais y a-t-il aussi quelqu'un qui veut dire, je veux revenir à Dieu? Si tel est l'appel à laquelle vous voulez, auquel vous voulez répondre, si telle est la décision que vous voulez prendre, je vous demanderai simplement là où vous êtes de vous lever en même temps que les bien-aimés qui s'est même déjà avancé. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je veux accepter Christ comme Seigneur? Ou bien je veux renouveler mon engagement car il y a eu relâchement. Il vous demande ce soir de venir à lui tel que vous êtes. Et lui vous rendra tel qu'il veut que vous soyez. Il y a un héritage attaché aux serviteurs de Dieu. Mais cela commence par la nouvelle naissance.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.